Bonjour à toutes et à tous sur France Culture, il est 12h30. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Maëlys Bessery, bonjour à toutes et à tous. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé ce matin Bernard Tapie, de même que le PDG d'Orange, Stéphane Richard et quatre autres prévenus jugés dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui avait octroyé 403 millions d'euros à l'homme d'affaires en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Pour le tribunal, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas caractérisés. Facebook protège-t-il suffisamment les données personnelles de ses utilisateurs européens? Voilà la question à laquelle devra répondre la Cour européenne de justice lors d'un procès qui s'est ouvert ce matin à Luxembourg. Enfin, les talibans et divers hauts responsables afghans ont conclu hier soir leur dialogue politique à Doha en s'engageant à établir une feuille de route pour la paix en Afghanistan. Et ce, au moment même où les États-Unis cherchent eux à se désengager du pays après 18 ans d'intervention militaire. Et puis à 12h45, Maëlys, ce sera la grande table d'été.
Et oui, nous allons parler de la libération LGBT+ au cinéma à l'occasion des 50 ans des émeutes de Stonewall et faire le portrait du performeur Justin Shoulder.
Merci et à tout à l'heure. Voilà donc une relaxe générale qui met fin à une saga vieille de 26 ans. Ce matin, le tribunal correctionnel de Paris était appelé à répondre à cette question. Bernard Tapie a-t-il escroqué l'État? Et la réponse est non, après des années de péripéties judiciaires. L'ex-homme d'affaires qui disait avoir été floué par le Crédit Lyonnais lors de la vente du fabricant d'équipements de sport Adidas en 93 a été blanchi. Florence Thion, bonjour.
Bonjour.
Relax général donc ce matin pour Bernard Tapie, mais aussi l'actuel PDG d'Orange, Stéphane Richard, dont le sort était suspendu à ce jugement.
Concernant le délit d'escroquerie, la preuve n'a pas été rapportée, commence la présidente du tribunal, Christine May. Le silence est total dans la salle. Stéphane Richard assis au premier rang, visage tendu, les chaises de Bernard Tapie et Pierre Estoux restait vide à côté de lui. Et avant même d'entendre prononcer le mot relax, le soulagement se lit sur le visage d'Hervé Temim, l'avocat de Bernard Tapie.
Je suis très ému parce que je suis très très satisfait. D'abord pour Bernard Tapie, qui vit des moments très difficiles, mais pour lequel je crois que cette décision est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça fait des années qu'on se bat avec la certitude qu'on a raison. Et il y a une sorte de vérité officielle qui a été propagée et qui vient d'être infirmée par le tribunal avec une netteté, une fluidité extraordinaire. Parce que tout ce qu'a dit le tribunal, c'est ce que nous disons depuis le premier jour.
Le tribunal n'a donc pas suivi le parquet qui avait requis 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'homme d'affaires et une peine symbolique de 3 ans ferme contre Pierre Estoupe, le juge arbitre également poursuivi dans ce dossier. Relax général donc, y compris pour Stéphane Richard, le PDG d'Orange, qu'une condamnation même symbolique aurait pu obliger à quitter ses fonctions. Stéphane Richard qui est sorti de la salle les larmes aux yeux.
Aujourd'hui, c'est un immense soulagement de voir mon innocence totalement reconnu par ce tribunal. Le tribunal a dit que l'arbitrage d'abord était légal, il a même dit qu'il était légitime compte tenu de l'ensemble des dossiers. Donc bien évidemment, c'est pour nous une très grande satisfaction de voir la justice établir enfin, l'innocence, la mienne en tout cas, et dire avec la plus grande netteté que ce recours à l'arbitrage a été fait de façon légale et de façon légitime.
Un soulagement certain pour l'entreprise Orange également. Dans cette même salle du Palais de Justice, le procès de France Télécom pour harcèlement moral reprendra demain avec la suite des plaidoiries de la défense. Cela dit, le parquet, dont l'analyse et les réquisitions ont été écartées, pourrait faire appel de ce jugement. Il lui reste 10 jours pour en décider.
Merci Florence Thurm. C'est une première dans l'histoire moderne de la diplomatie vaticane. Hier, le Saint-Siège a levé l'immunité de son ambassadeur en France, Luigi Ventura, sous le coup d'une enquête à Paris pour agression sexuelle. Le nonce apostolique est visé par les plaintes d'au moins 4 hommes en France, dont 3 au moins de jeunes fonctionnaires de la mairie de Paris lui reprochent des attouchements au cours des cérémonies officielles à l'hôtel de ville, une étape qui rend désormais possible d'éventuelles poursuites judiciaires. Après les endives, la farine, les yaourts, le jambon, voilà que la compote, autre produit prisé des consommateurs, se retrouve à son tour dans le viseur de l'autorité de la concurrence. Selon les informations du journal Le Monde, les industriels ciblés par une enquête pour soupçon de cartel devraient venir plaider leur cause demain. Parmi les entreprises dans le collimateur, on trouve notamment Andros et Materne, les 2 plus grands acteurs de ce marché. Le deuxième conseil de défense écologique se tenait ce matin à l'Élysée, lancé à l'issue du grand débat national avec l'objectif de réunir régulièrement les ministres concernés par le dossier autour du président et du premier ministre. Ce conseil est aujourd'hui présenté comme l'outil décisionnel ultime dans le domaine de la transition écologique devenue une priorité du chef de l'État. Véronique Robérode, bonjour.
Bonjour.
Alors, lors du premier conseil, c'était le 23 mai dernier, le gouvernement avait notamment annoncé l'arrêt définitif du projet Montagne d'Or en Guyane. Que faut-il retenir cette fois-ci, Véronique, de cette deuxième réunion ?
Une annonce sur la mise en place d'une taxation dans le secteur aérien, pas l'instauration d'une taxe kérosène nationale, qui n'aurait aucun sens, a dit le ministre de l'écologie François de Rugy, mais la mise en place d'une éco-taxe, une éco-contribution sur les billets d'avion payés donc par le passager. Cette éco-contribution sera mise en place en 2020 sur tous les vols au départ de la France. 1,50€ par billet d'avion sur un vol donc au sein de l'Union européenne, 3€ en classe économique toujours sur les vols internationaux, jusqu'à 18€ donc par billet sur un vol international en classe affaires, une taxe progressive donc qui ne concernera pas les vols intérieurs. La France s'inspire de ce qui se fait déjà donc en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Et même, a dit le ministre, sans aller chercher très loin, bien il y a la taxe Chirac sur les billets d'avion, elle existe déjà. Elle est en place depuis des années, finance des mécanismes de solidarité, notamment autour de la lutte contre le sida. Là, le message des Français, leurs aspirations ont été respectées, a précisé le ministre de l'écologie, accompagné dans ses déclarations par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. L'argent récolté grâce à cette éco-contribution sera, sur le transport aérien, autour de 180 millions d'euros par an, et bien sera intégralement affecté à l'amélioration des transports quotidiens des citoyens. Les trois quarts des 180 millions d'euros dans le ferroviaire, donc ils seront investis dans le ferroviaire, et l'amélioration du transport ferroviaire autour des grandes métropoles. Autre annonce concernant cette fois la taxation du transport routier, mais à partir de l'année prochaine, le transport de marchandises sera moins aidé, 2 centimes de moins de remboursement partiel sur le litre de gazole à partir donc de 2020 pour les transporteurs routiers.
Merci Véronique Robérode. Les députés sont appelés à voter aujourd'hui la proposition de loi de lutte contre la haine sur Internet. Un texte controversé qui contraint, malgré leur réticence, les plateformes à agir et hérisse certains élus de l'opposition. Pour autant, la plupart des groupes politiques, de la majorité au Parti Socialiste, en passant par les Républicains, devraient se prononcer pour. Quant aux plus critiques, ils devraient se partager entre abstention et vote contre. France Insoumise en tête, qui juge que sous prétexte de responsabiliser les plateformes, la proposition de loi déresponsabilise l'État. Si l'expression procès historique peut sembler parfois éculée, souvent même un brin exagéré, s'agissant de l'action engagée aujourd'hui contre Facebook, la formule ne paraît pas complètement abusive. D'une part, parce qu'elle est dirigée contre un géant technologique, l'un de ces enfants terribles de la mondialisation que l'on désigne habituellement par l'acronyme GAFAM, et d'autre part parce que cette affaire complexe qui, à n'en pas douter, sera scrutée de près aujourd'hui par tous les géants du web, est susceptible de jeter les bases de toute nouvelle loi sur les transferts de données et donc, à terme, d'affecter aussi des milliers d'entreprises. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, le procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la Cour européenne de justice à Luxembourg concerne donc une plainte déposée contre la firme américaine par un activiste autrichien militant pour la protection de la vie privée.
Et oui, pour bien comprendre l'enjeu et ce procès, il faut revenir aux révélations d'Edward Snowden en 2013. On découvre alors les liens entre les services de renseignement américains et certaines sociétés comme Facebook ou Google. Certaines données sont transférées, y compris celles d'utilisateurs européens, au FBI ou à la NASA. Max Schrems, donc ce militant, attaque Facebook en saisissant l'équivalent de la CNIL irlandaise, car la firme américaine a son siège européen en Irlande. L'affaire remonte vers la justice européenne. En 2015, la Cour de Luxembourg invalide une première fois, on va dire, l'accord transatlantique décidé par la Commission européenne, dit du Safe Harbor, qui autorisait en fait depuis 2000 les transferts de données de l'Europe vers les USA. En clair, l'affaire Snowden a révélé le fait que cet accord n'était pas suffisant pour protéger les citoyens. Le Safe Harbor est remplacé depuis par un autre accord, contesté d'ailleurs lui aussi, qui s'appelle le Privacy Shield, bouclier privé en français. Mais revenant à ce militant autrichien, il gagne une première bataille, mais pas la fin de la guerre en 2015 contre Facebook, car il découvre ensuite qu'il reste des trous, en quelque sorte, dans la raquette, d'où le procès d'aujourd'hui, où une trentaine d'avocats sont mobilisés, certains représentant même l'État américain, sont dans la salle d'audience depuis 9h ce matin, et les enjeux sont colossaux en matière de vie privée, bien sûr, mais aussi, vous l'avez dit, économique pour les GAFA, et pour les entreprises européennes qui commercialement ont besoin de ces transferts de données. L'arrêt est attendu en fin d'année.
Alors, on l'a bien compris, Angélique, la Cour devra au fond déterminer si la manière de travailler de Facebook est contraire ou non au droit européen sur la vie privée, un domaine dans lequel l'Europe est aujourd'hui pionnière.
Oui, la question c'est de savoir, vous l'avez dit, si ces transferts sont compatibles précisément avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais c'est aussi le premier procès en fait depuis l'application en Europe du RGPD, ce fameux règlement sur la protection des données, qui est devenu le standard mondial en la matière. Vous avez raison, l'Europe a été pionnière. Ce règlement aujourd'hui est regardé avec intérêt partout dans le monde. Et au fond, l'enjeu de cette audience porte aussi sur la question de la convergence internationale dans ce domaine.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles. En pleine guerre commerciale entre Pékin et Washington, il y avait fort à parier que l'annonce par le département d'État américain d'une importante vente d'armement à Taïwan pour un montant total de plus de 2 milliards de dollars serait de nature à provoquer la colère de la Chine. Et pourquoi ? Tout simplement parce que Pékin continue de considérer l'île comme faisant partie de son territoire. C'est ainsi que dès ce matin, donc, la Chine a effectivement exhorté les États-Unis à annuler immédiatement cette transaction. Les précisions de Capucine Jaffé.
La colère de Pékin ne faiblit pas. Le mois dernier, la Chine avait déjà rappelé à l'ordre les États-Unis pour qui cette vente était inconcevable. Et si ce n'est pas la première fois que Washington autorise une vente d'armes à Taïwan, la pilule ne passe pas du tout en ce moment, car il s'agit de la plus grosse vente d'armes américaines à l'île depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, alors que les relations commerciales entre les deux pays sont extrêmement tendues. Une provocation pour Pékin qui en ce moment rencontre des difficultés dans la région. Il y a quelques mois déjà, la tension était montée d'un cran avec Taïwan. La marine chinoise avait même manœuvré autour de l'île. Historiquement, Washington a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan et pourtant les États-Unis sont aujourd'hui les premiers fournisseurs d'armes de l'île. De son côté, Taipei se réjouit et dit y voir une forme de soutien de la part des États-Unis. Le Congrès américain a maintenant 30 jours pour faire objection à cette vente, mais cette hypothèse semble peu probable.
La dirigeante de l'exécutif pro-Pékin de Hong Kong a annoncé ce matin la mort du projet de loi largement décrit autorisant les extraditions vers la Chine, sauf que ses assurances ont été aussitôt rejetées par les contestataires qui ont promis de nouvelles manifestations. Dans son discours le plus conciliant à ce jour, la chef de l'exécutif a certes reconnu que ses tentatives pour faire adopter le texte avaient été un échec total, réaffirmant que le gouvernement ne relancerait pas le processus parlementaire. En revanche, elle s'est refusée une nouvelle fois à parler de retrait pur et simple. La rencontre entre des représentants talibans et une délégation afghane de 60 personnes à Doha, au Qatar, s'est achevée la nuit dernière. Les deux parties se sont quittées après s'être mis d'accord sur un communiqué conjoint, sorte de déclaration censée préparer le terrain à des négociations de paix inter-afghane, mais aussi faciliter les négociations entre les États-Unis et les insurgés islamistes pour mettre fin à l'intervention américaine. Les précisions de Sonia Ghezali.
Réduire la violence, démarrer un processus de paix sans ingérence des pays voisins, ce sont les grandes lignes de cette déclaration conjointe entre les talibans et la délégation de membres de la société civile et de partis politiques afghans. Le gouvernement n'était pas représenté à cette réunion. Les talibans ont refusé jusque-là de rencontrer officiellement des représentants de l'État afghan qu'ils considèrent comme une marionnette aux mains des Américains. La délégation afghane estime cependant que cette rencontre a été fructueuse et qu'elle aidera certainement aux discussions entre les autorités afghanes et les talibans. Cette déclaration est une fondation pour démarrer la discussion, dit une militante de la société civile qui a participé à la rencontre. Les droits des femmes sont aussi mentionnés dans le document conjoint. Leurs droits doivent être respectés conformément aux valeurs islamiques, est-il écrit. Toujours peu de détails sur ce que cela signifie concrètement. Plusieurs femmes présentes à Doha se sont réjouies sur les réseaux sociaux des échanges qu'elles ont eus avec les représentants talibans, s'étonnant de les voir enclins à discuter avec elles. Une participante s'inscrit en porte-à-faux toutefois. « Nous avons besoin de plus de temps pour évaluer si les talibans ont vraiment changé », Chargoul poursuit. L'attaque qu'ils ont menée à Razni il y a quelques jours montre qu'ils n'ont pas changé dans le domaine de la protection des civils. Souhel Shahin, le porte-parole des talibans à Doha, a quant à lui répété « Nous discuterons de négociations intra-afghanes et d'un cessez-le-feu quand le retrait des troupes étrangères sera annoncé ».
Et je précise qu'après la parenthèse que constituait ce dialogue inter-afghan, Américains et Talibans doivent reprendre aujourd'hui à Doha leur 7e session de négociation. Quand le balancier en politique ne fait pas tout, hier au lendemain de l'élection du nouveau Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, les grands argentiers ont déjà fait savoir qu'ils refuseraient de renégocier la trajectoire budgétaire d'Athènes, comme le candidat de la droite l'avait pourtant laissé entendre pendant sa campagne. Par ailleurs, le nouveau chef de file des conservateurs a nommé hier son gouvernement parmi lesquels figurent deux anciens membres d'un parti d'extrême droite. On termine avec un mot de météo instable dans le sud-ouest, ensoleillé partout ailleurs. Quant aux températures, elles varieront entre 19 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, je vous retrouve pour le prochain journal de la rédaction.